Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 24 septembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le débat général à l'Assemblée annuelle des Nations Unies a démarré aujourd'hui mardi à New York. Notre envoyé spécial sur place nous fera le point. Au Burkina Faso, le gouvernement affirme avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation. La Russie annonce l'arrestation de 3 de ses concitoyens au Tchad. La situation au Moyen-Orient reste tendue, les frappes israéliennes au Liban s'accentuent. Dans notre partie magazine, l'influence des musulmans américains sur les élections américaines est en train de s'accroître en grande partie en raison des inquiétudes suscitées par la poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, les autorités ont déclaré avoir découvert un complot international visant à renverser le régime de Ouagadougou. D'après le gouvernement, il s'agit d'un vaste complot de déstabilisation sur plusieurs fronts, orchestré depuis d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Le point avec Jean-Roger Billon.
Selon le ministre de la Sécurité, la première attaque précurseur de cette opération de déstabilisation était celle du 24 août à Barsalogo, dans la région du Centre-Nord. Il a présenté l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, comme le chef du volet militaire de ce complot, donnant de nombreux détails opérationnels et citant une quinzaine de noms, dont d'anciens officiels burkinabés. Le ministre a affirmé que l'objectif final de ce plan était de prendre le palais présidentiel à Ouagadougou. Il a annoncé que plusieurs personnes avaient été arrêtées, dont certaines auraient été tuées lors d'une tentative d'évasion, dont Ahmed Kinda, ancien commandant des forces spéciales burkinabé, présenté comme le chef des opérations. Le journaliste nigérien d'origine ivoirienne Serge Mathurin Adou, qui a disparu à Niamey depuis le 1er septembre, a également été cité parmi les auteurs de ce complot.
Au Bénin, l'homme d'affaires Olivier Boko, un proche ami du président Patrice Talon, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Cotonou, la capitale économique du Bénin, selon plusieurs de ses proches. Olivier Boko, 60 ans, est un ami de Patrice Talon depuis une vingtaine d'années, ce qui lui valait d'être qualifié de bras droit du président, bien qu'il n'ait jamais eu de fonction officielle dans l'organigramme présidentiel. Mais ces derniers mois, Olivier Boko avait commencé à afficher ses propres ambitions politiques, laissant penser qu'il se porterait candidat à la magistrature suprême en 2026. Les autorités judiciaires et la police n'ont pas confirmé l'arrestation de M. Boko, dont les causes ne sont pas encore connues. La Russie a officiellement annoncé l'arrestation au Tchad de 3 de ses concitoyens et d'un Bélarusse, des interpellations qui tranchent avec le rapprochement de ces derniers mois entre Moscou et N'Djamena sur fond d'affaiblissement de la position de la France au Sahel. Les précisions de John Lindon.
Les 19 et 21 septembre à N'Djamena, les autorités de la République du Tchad ont arrêté 3 citoyens russes et 1 citoyen du Bélarus, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères lundi soir. S'il n'a pas précisé les motifs de ces arrestations, le ministère dit néanmoins avoir pris les mesures nécessaires pour assurer leur libération rapide et avoir établi des contacts étroits et maintenus avec les autorités compétentes. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, 2 des Russes arrêtés sont des sociologues, l'un étant sous sanction européenne pour des liens avec l'ancien patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, dont l'organisation est très présente en Afrique. Bruxelles l'accuse également de mener des campagnes de désinformation pour le compte de la Russie. Ces arrestations interviennent alors que Moscou et N'Djamena se sont fortement rapprochés ces derniers mois, la Russie profitant de la position affaiblie de la France, ancienne puissance coloniale au Sahel. Le président tchadien Mahamad Idriss Déby Itno avait ainsi qualifié le Tchad et la Russie de pays frères lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou en janvier, et le maître du Kremlin avait promis d'aider son homologue à stabiliser la situation dans son pays.
L'Union africaine a appelé mardi à la cessation immédiate des combats dans la grande ville soudanaise d'El Fasher, dans le sud-ouest, dénonçant une escalade de la crise après un assaut ce week-end des forces paramilitaires. Depuis des mois, le sort d'El Fasher inquiète la communauté internationale. Dans cette métropole de 2 millions d'habitants, seule capitale des 5 États du Darfour, à ne pas être aux mains des FSR, des centaines de milliers de civils sont menacés par des violences de masse, a alerté la semaine dernière l'ONU. Au Ghana, l'adoption définitive d'une loi sur l'égalité des genres porte la promesse d'un changement sociétal qui permettra aux Ghanéennes d'occuper plus de postes à responsabilité, près de 30 ans après avoir été envisagée pour la première fois. Le président Nana Akufo-Addo a promulgué jeudi dernier la loi dite sur l'action positive et l'égalité des genres, moins de 3 mois avant l'élection présidentielle prévue le 7 décembre qui élira son successeur. La loi, votée en juillet par les parlementaires, invite les services publics de sécurité, l'appareil judiciaire, le Parlement, les partis politiques, les syndicats et le secteur privé à s'assurer de l'égalité des genres d'ici 2030.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une guerre généralisée au Liban n'est dans l'intérêt de personne. C'est ce qu'a plaidé aujourd'hui le président américain Joe Biden aux Nations Unies pendant qu'Israël poursuivait ses frappes sur le pays, désormais au bord du gouffre, selon le chef de l'ONU, Jacques Aristide.
Même s'il y a une escalade de la situation, une solution diplomatique est toujours possible, a insisté le président américain lors de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York, assombri par les craintes d'une guerre régionale au Proche-Orient. Il faut finaliser maintenant un accord de cessez-le-feu à Gaza, a-t-il d'ailleurs déclaré. Cette dernière prise de parole à la tribune de l'ONU de Joe Biden, qui quittera la Maison-Blanche en janvier, intervient alors qu'Israël a durement frappé ces derniers jours le Hezbollah, allié de l'Iran et soutien du Hamas palestinien. Pour le secrétaire général de l'ONU, le Liban est au bord du gouffre. Le peuple libanais, le peuple israélien et les peuples du monde ne peuvent se permettre que le Liban devienne un autre Gaza. Nous devrions tous être alarmés par cette escalade, a ajouté Antonio Guterres. Condamnant les applaudissements de l'Assemblée pour les Palestiniens, mais le silence sur les otages israéliens, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danone, a fustigé une mascarade annuelle d'hypocrisie. Nous continuerons de frapper le Hezbollah, a pour sa part promis ce mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a accusé Israël de chercher à élargir le conflit au Moyen-Orient. Il a également qualifié d'insensé et incompréhensible l'inaction des Nations Unies envers Israël en référence à Gaza et aux frappes sur le Liban.
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté ce mardi 24 septembre, se poursuivra jusqu'au samedi 28 septembre et s'achèvera le lundi 30 septembre 2024. Le thème proposé de la 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Davantage avec Alexandrine Collignon à New York.
Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis l'accent sur la division géopolitique, le réchauffement planétaire et les guerres sans fin que traverse le monde. Le chef de l'ONU a noté qu'un tiers des 75 pays les plus pauvres du monde se trouvent aujourd'hui dans une situation pire qu'il y a 5 ans. Il a déploré le fait que l'Afrique ne dispose toujours pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale, a demandé à ce que l'Afrique soit soutenue pour libérer le potentiel du continent et cultiver des partenariats mondiaux qui correspondent à ses aspirations. Le président américain Joe Biden a prononcé son dernier grand discours à la tribune de l'ONU, adressant un message personnel aux dirigeants du monde en insistant sur l'intérêt des peuples. Il a de nouveau exhorté les parties au cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas et mise en garde contre une guerre généralisée au Liban. Le chef de l'exécutif américain a évoqué la guerre qui sévit en ce moment au Soudan.
Le monde doit arrêter d'armer les généraux au Soudan, parler d'une seule voix et leur dire « Arrêtez de détruire votre pays. Cessez de bloquer l'aide à la population soudanaise. Mettez fin à cette guerre maintenant. »
Joe Biden a promis l'appui des États-Unis à l'Afrique face à la crise sanitaire du Mpox.
Nous, les États-Unis, sommes prêts à engager 500 millions de dollars pour aider les pays africains à prévenir et à combattre le Mpox et à faire don d'un million de doses de vaccins anti-Mpox dès maintenant.
Alexandrine Fonognon, New York, VOA Afrique.
Un an après avoir scellé un accord migratoire avec la Tunisie, l'Union européenne a haussé le ton mardi en réclamant aux autorités tunisiennes une enquête sur les accusations de viol de migrants visant les forces de l'ordre du pays. Bruxelles réagit ainsi à la publication dans le quotidien britannique The Guardian d'une série de témoignages de migrants qui mettent en cause des membres de la garde nationale accusés de violences sexuelles, dont des viols. Dans cet article, les autorités tunisiennes contestent ces allégations, les qualifiant de faux et sans fondement. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Guillon.
Les autorités nigériennes ont saisi le 18 septembre 19,4 kg de cocaïne d'une valeur de près de 3 millions de dollars sur un homme d'affaires arrivé à l'aéroport de Lagos par un vol en provenance d'Éthiopie, a déclaré ce mardi l'agence antidrogue nigériane. Cet individu avait été reconnu coupable de trafic l'année dernière, mais avait payé une amende pour éviter une peine de prison. Les principaux détaillants zimbabwéens ont mis en garde contre d'éventuelles fermetures de magasins si le gouvernement insiste sur l'utilisation d'un taux de change officiel qu'ils jugent surévalués et préjudiciables à leur compétitivité. Les directives officielles exigent que les détaillants fixent leur prix sur la base du taux de change officiel de 14,8 zig pour 1 dollar sous peine d'amende. Ici aux États-Unis, le syndicat des machinistes a jugé insuffisante lundi la proposition du groupe Boeing, dont une hausse salariale de 30% sur 4 ans, présentée comme sa meilleure offre, pour mettre fin à la grève. Plus de 33 000 ouvriers de l'avionneur dans la région de Seattle sont en grève depuis le 13 septembre dans le cadre de la négociation de leur nouvelle convention collective.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Nous parlons aujourd'hui du mondial de futsal en Ouzbékistan.
Oui, l'Afrique comptait trois représentants dans cette compétition, le Maroc, l'Angola et la Libye. Il n'en reste plus qu'un, le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale et qui affronte l'Iran. Notre consultant sportif à Casablanca, Amine Birouk, revient sur les performances de ces formations africaines.
Il n'en reste plus qu'un, et est-ce qu'il est bien fringant après sa défaite 4-1 face au Portugal? Il s'agit du Maroc, triple champion d'Afrique, quart de finale il y a 3 ans en Lituanie, et qui est arrivé en Ouzbékistan avec des aspirations, et visiblement, les blessures, peut-être le surentraînement, ont miné un peu le moral de l'équipe entraînée par Hicham Guic. Maintenant, tout dépendra jeudi d'un match couperé face à l'Iran, en huitième de finale, à partir de 12h30 en temps universel. Elle décidera, ce match couperé décidera de la qualification du Maroc en quart de finale et déterminera si la participation des Lions d'Atlas aura été bénéfique ou bien un simple fiasco. Du côté de l'Angola, c'est 3 défaites en 3 matchs et de nombreux points d'interrogation pour les vice-champions d'Afrique. Quant à la Libye, sa première victoire face à la Nouvelle-Zélande augurait d'une belle participation, mais visiblement, 2 lourdes défaites, et notamment devant l'Espagne avec 8 buts d'écart, ont éliminé les Libyens qui auraient pu passer en tant que meilleur troisième, mais ils sont en phase d'apprentissage. Le futsal africain a des lacunes, il a un retard à combler par rapport à l'Europe et à l'Asie centrale, et l'Amérique latine, il va falloir s'y coller avec peut-être l'instauration d'une CAN tous les 2 ans au lieu de 4. La logique voudrait qu'on suive et qu'on imite le beach soccer qui a sa CAN tous les 2 ans. On se pose des questions par rapport au programme et à l'organisation de la CAN, notamment en matière de compétition. La CAF qui n'en est pas à une contradiction près. 4 ans pour le futsal, 2 ans pour le beach soccer et de nombreux points d'interrogation par rapport à l'avenir de ce sport.
Alors, justement, Amine Birouk, très rapidement, en 30 secondes, parlant de cette équipe du Maroc, je me souviens, juste avant le match contre le Portugal, le troisième, et donc lors de la troisième journée, eh bien, l'entraîneur portugais parlait d'une équipe marocaine qui fait partie des équipes les plus redoutables dans cette compétition. Est-ce que c'était du bluff, juste pour mettre la pression sur les Marocains ou
c'était un VMD? Les Marocains, sur les 3 dernières années, ont battu le Brésil, l'Argentine, l'Espagne en match amical. C'est une équipe au complet qui est redoutable, qui est solide, mais elle a perdu en cours de route 2 éléments importants.
Amine Birouk, consultant sportif, joint à Casablanca, au Maroc.
Merci Yacouba.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le chef de l'État malien a réuni lundi de hauts responsables militaires pour ajuster la stratégie et donner de nouvelles orientations 6 jours après des attaques djihadistes qui ont fait des dizaines de morts à Bamako. Les attaques ont eu lieu le lendemain du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 voisins confrontés à l'expansion djihadiste et plongés dans des crises profondes. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint à Paris le sociologue malien Mohamed Amara.
Il me semble qu'il y a plusieurs hypothèses pour dire ce qui n'a pas marché. La première hypothèse, c'est quand même la faiblesse des renseignements qui n'ont pas permis de détecter ou d'anticiper sur des attaques de ce genre au plein cœur du pouvoir militaire et politique à Bamako. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est aussi un moment, il y a eu une espèce de relâchement depuis la reconquête de la ville de Kidal en fin d'année 2023 et qui, malheureusement, a créé une situation de paix, voire sans menace terroriste qui a été profitable à ces groupes terroristes qui, depuis la bataille de Tinzabatane en juillet dernier, ont repris du poil de la bête.
Quand le président Assimi Goïta parle d'ajustement, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire?
Ce que dit le président Goïta, c'est aussi une façon de se remettre dans le jeu politique, dans le jeu sécuritaire, pour affirmer sa position, affirmer sa place, qu'il reste le maître à bord. Tout dépendra maintenant de la capacité des autorités actuelles du Mali à se réarmer à la fois moralement, militairement, mais aussi politiquement. Et c'est ce dernier point, l'aspect politique, qui importe. Réajuster pas seulement l'outil de défense, mais aussi libérer des opposants politiques, faire en sorte que les Maliens s'unissent, se rassemblent pour faire front commun contre le phénomène narco-terroriste.
Le Mali s'est fédéré dans l'AES avec le Niger et le Burkina Faso. Mais jusque-là, l'on ne constate pas sur le terrain de la lutte anti-djihadiste une synergie d'action. Que faut-il faire?
Oui, ce n'est pas déjà une fédération, c'est une alliance, une confédération. Ça ne marche pas parce qu'encore cette confédération s'est constituée en étant une espèce d'opposante à la CEDEAO. L'idéal, de mon point de vue, aurait été de trouver des dispositifs de régulation sécuritaire pour qu'il y ait une vraie coopération, c'est-à-dire un groupe collectif de tous ces 3 États, des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, pour faire reculer le terrorisme. Il y a aussi un deuxième et dernier point important à noter, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est le fait que ces 3 États sont constamment en conflit avec l'Occident, avec les 3 membres permanents du Conseil de sécurité. Rappelez-vous qu'à Agadez, au Niger, il y avait encore les drones Reaper américains qui permettaient d'avoir une surveillance accrue du ciel africain, mais aussi jusqu'au Moyen-Orient. Et donc, il y a tous ces moyens qui ont été réduits et qui permettaient donc de traquer les groupes terroristes, de les surveiller et qui n'existent plus et qui facilitaient un peu le développement, malheureusement, de ces groupes. Et c'est ce qui explique que pour l'instant, ça ne marche pas.
Mohamed Amara, sociologue, auteur de l'ouvrage Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais, PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, et celui de son successeur, l'Alliance pour la République APR de Macky Sall, ont formé une coalition pour les législatives anticipées du 17 novembre. Se disant incapable de mettre en œuvre son programme politique avec une assemblée nationale dominée par la coalition de son prédécesseur Macky Sall, le président Faye a dissous le Parlement le 12 septembre dernier et a annoncé des élections législatives anticipées pour novembre. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar au Sénégal Pape Alioune Tsar, rédacteur en chef de e-radio.
ce qui est sûr, c'est qu'entre l'APR et le PD, c'est une coalition contre nature. Kanye Wade a été poursuivi, pourchassé. Il a été l'incarnation de la reddition des comptes pendant longtemps. Il serait même exilé par le protocole de Rebus. Kanye Wade, depuis lors, reste au Qatar. Maintenant, à cause de ces deux parties-là, le Sénégal a connu une crise sans précédent avec le report de la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les libéraux accusent celui qui était à la tête de Benobo Kiyakar, en l'occurrence Amadou Ba, de corruption des juges. Macky Sall, à quelques heures de l'élection présidentielle, a prononcé un discours pour dire qu'il y a un différent entre le conseil constitutionnel, autrement dit le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Par conséquent, je reporte l'élection présidentielle et ça a créé non seulement une crise sans précédent, mais des membres. Aujourd'hui, il se retrouve quel œil la société ou les électeurs verront tout cela. Je pense que ça c'est important parce qu'on oblitère qu'au-delà de l'idéologie, qu'au-delà du vote, les citoyens sénégalais également ont un regard sur la morale dans la politique. C'est idyllique, mais c'est réaliste parce qu'on l'a vu lors de l'élection présidentielle précédente, il y a plus eu de sanctions que de votes. C'était plus un référendum.
Le PDS, le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade, avait soutenu Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle remportée par Faye. Qu'est-ce qui a créé la division en temps?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de division. Pastef ou Ousmane Sonko a compris que c'est lui seul qui était le métronome qui donne le tempo à son parti. Pastef, maintenant, ne veut plus des partis politiques aussi mineurs que soient-ils ou des antipolitiques aussi classiques que le PDS. Lors des législatives de 2022, il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont survécu à cause de la coalition IEUA-SKANU. Coalition IEUA-SKANU qui avait des incarnations fortes comme Ousmane Sonko, comme Khalifa Sall, comme Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, le parti Pastef qui est arrivé au pouvoir ne voudrait pas tomber dans le même piège que l'APR. L'APR n'a jamais été un parti politique. L'APR a été soutenu dans une coalition qui a survécu pendant ces 12 années de règne de Macky Sall. Pastef maintenant voudrait se démarquer.
Quel est le poids de cette coalition appelée Alliance pour la transparence électorale face à la formation politique du président Macky Sall et du Premier ministre Ousmane Sonko?
Actuellement, ATEL n'est pas encore une force électorale. C'est une force politique conjoncturelle. Autrement dit, elle est née pour la transparence des élections.
Pape Alioune Sarr, rédacteur en chef de e-radio à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h/24.
Après les deux journées du sommet de l'avenir consacrées aux grands défis de l'humanité pour les générations qui viennent, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU pendant toute la semaine alors que les conflits font rage à travers la planète pour savoir les grandes priorités des États-Unis pour l'Afrique durant cette Assemblée générale des Nations Unies. Eric Manilakiza a joint à New York le porte-parole francophone du gouvernement américain, John William Schmontis.
Premièrement, les États-Unis cherchent à promouvoir la paix et les réformes démocratiques dans la région. Deuxièmement, ils continuent à fournir une aide humanitaire à l'Afrique, à la fois par l'intermédiaire du système des Nations Unies et en dehors du système des Nations Unies. Et on cherche aussi à établir des liens créatifs avec des partenaires non gouvernementaux et aussi du secteur privé. Et troisième, les États-Unis cherchent à réformer en profondeur les institutions multilatérales afin de promouvoir une plus grande inclusion et une plus grande efficacité.
Monsieur Schmontis, quelles sont les grandes priorités des États-Unis pour l'Afrique durant cette Assemblée générale des Nations Unies et comment ces priorités se traduisent-elles en actions concrètes sur le terrain?
La stratégie des États-Unis envers l'Afrique reste sur la reconnaissance que l'Afrique subsaharienne est une force géopolitique majeure. Notre approche reconnaît que nous ne pourrons réaliser aucune de nos priorités communes si nous ne travaillons pas ensemble en tant que partenaires égaux. Et c'est pourquoi, lors de cette Assemblée générale, nous luttons pour créer un Conseil de sécurité plus inclusif et plus efficace, notamment élargi avec deux sièges permanents pour les pays africains.
Comment le gouvernement américain perçoit-il l'avenir du partenariat avec l'Afrique et quelles décisions importantes à considérer lors de cette assemblée pour renforcer cette collaboration?
Les États-Unis sont le principal pays donateur du système humanitaire de l'ONU et on s'engage à faire notre part pour que le système humanitaire soit à la hauteur des enjeux actuels. Grâce à des fonds supplémentaires, les États-Unis apportent leur contribution à un moment où les besoins sont extraordinaires. Et parallèlement, en même temps, nous sommes déterminés à œuvrer en faveur d'un système mondial plus efficace et plus souple, qui affecte davantage d'outils et de ressources, et fasse de la coopération et du partage des charges une priorité, y compris avec des donateurs non traditionnels comme les ONG, le secteur privé, etc.
Au Soudan, quelles initiatives spécifiques les États-Unis mettent-ils en œuvre pour aider à mettre fin au conflit et ramener la stabilité dans la région?
Les États-Unis s'efforcent de mettre fin à la guerre civile au Soudan. Et ils ont organisé en ce sens des pourparlers en Suisse en août 2024 avec la Suisse, l'Arabie Saoudite et d'autres parties. En outre, ils engagent continuellement les parties au conflit dans la recherche d'un cessez-le-feu.
John William Schmontis, porte-parole francophone du gouvernement américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les musulmans représentent moins de 2% de la population américaine, mais comme le rapporte Kane Farabo de la VOA, l'impact du vote des Américains musulmans dans les élections américaines a pris de l'ampleur, en grande partie en raison des inquiétudes concernant la guerre qui se poursuit entre Israël et le Hamas. Le récit est de Jacques Aristide.
Dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois, Bridgeview, également connue sous le nom de Little Palestine ou Petite Palestine, les employés de Kawa servent une quantité de produits à base de café aux Américains d'origine palestinienne qui passent sans arrêt dans la boutique.
Partout où vous allez dans cet endroit, vous voyez des gens qui sont visiblement musulmans.
Diana Othman enseigne à l'école islamique locale et fréquente Kawa. L'enjeu le plus important pour Othman en cette année électorale est de mettre un terme à la guerre entre Israël et le Hamas, groupe désigné terroriste par les États-Unis. C'est l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël qui a déclenché cette guerre. Attaque ayant fait 1200 morts et conduite à la capture de 250 otages. La contre-offensive d'Israël a tué plus de 41 000 Palestiniens, un nombre qui, selon Israël, comprend des milliers de militants.
Pour gagner mon vote, il faudrait que je voie un engagement à mettre fin immédiatement au génocide.
Beaucoup de personnes dans la petite Palestine partagent les préoccupations d'Othman. Le comté de Cook, dans l'Illinois, qui englobe Chicago et Bridgeview, comprend la plus grande communauté palestinienne du pays. L'Illinois abrite environ 475 000 Américains musulmans, soit environ 3,7% de la population totale.
Ils constituent une minorité substantielle dans l'Illinois et ont tendance à voter démocrate.
Tabitha Bonilla est professeure de politique sociale à l'Université Northwestern.
Il est peu probable que l'Illinois fasse basculer une élection, mais dans un État comme le Michigan, on estime qu'il y a environ 200 000 électeurs américains musulmans. Et juste pour référence, l'écart entre les républicains et les démocrates lors des dernières élections était de 150 000 personnes. Si les 200 000 électeurs américains musulmans décident de ne pas voter ou de ne pas voter démocrate, cela pourrait vraiment faire une différence dans un État pivot comme le Michigan.
Ce sont des gens du Michigan qui connaissent de première main l'impact des bombes financées par les États-Unis.
Leila Elabed est une activiste politique communautaire dans le Michigan et la sœur de la députée américaine palestinienne de l'État, Rachida Tlaib.
Nous voulons changer de cap par rapport à la politique actuelle et adopter une politique qui sauvera des vies palestiniennes et mettra fin à l'occupation des Palestiniens.
La communauté musulmane, non seulement dans le...
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Rosine Mounezelo à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissa. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.